Chapitre 3. Le voyage de Lisbeth fut la plus malheureuse de toutes les démarches inutiles faites par Colas dans cette affaire. Car peu de jours après, Sternbald entra dans la cour de Colasenbrück, conduisant au pas la voiture dans laquelle sa maîtresse était étendue, presque mourante d'une blessure dans la poitrine. Colas apprit du fidèle Sternbald que le castellan, ne s'étant pas trouvé chez lui, ils avaient été obligés de descendre dans un hôtel tout voisin du château. Le lendemain, Lisbeth avait quitté la maison, lui ordonnant de garder les chevaux. Et le soir, elle était rentrée dans cet état. Il paraissait qu'elle avait voulu s'approcher du prince et que, sans l'ordre de celui-ci et par le zèle grossier d'un des gardes qui l'entourait, elle avait reçu un coup de lance dans la poitrine. C'était ainsi du moins que les gens qui l'avaient rapporté le soir avaient expliqué les choses, car pour elle, elle n'avait pu parler à cause du sang qui lui sortait de la bouche. Sternbald ajouta que son intention avait été de partir aussitôt à cheval pour venir lui apprendre ce malheureux accident, mais que sa maîtresse avait insisté, malgré les représentations du chirurgien, pour être ramenée sans délai. Colas la porta sur un lit, où elle reprit ses sens pour quelques jours, mais il chercha vainement à apprendre d'elle ce qui lui était arrivé. Elle restait l'œil fixe et la bouche close à toutes ses questions. Ce ne fut qu'un instant avant sa mort, qu'elle sembla recouvrer la mémoire. Elle se tourna tout à coup vers le ministre luthérien qui lisait l'évangile à côté de son lit, et prenant la Bible de ses mains, elle se mit à la feuilleter rapidement, comme si elle y cherchait quelque chose. Puis montrant à Colas le verset suivant, « Pardonne à tes ennemis, fais du bien à ceux qui te maudissent, etc. » Elle lui serra la main, le regarda avec tendresse et expira. « Que Dieu ne me pardonne jamais si je pardonne au gentilhomme !» pensa Colas. Puis après avoir fermé les yeux de sa femme chérie en versant un torrent de larmes amères, il sortit de la chambre. Prenant les 100 écus d'or que son voisin lui avait déjà remis sur la propriété de Dresde, il alla faire préparer pour Lisbeth une tombe aussi riche que celle d'une princesse. Le cercueil de chêne était doublé de métal et garni de coussins de soie ornés de galons d'or. La fosse de 8 brassées de profondeur fut creusée sous ses yeux, tandis qu'il se promenait alentour avec ses pauvres petits-enfants. Lorsque le jour de l'enterrement fut arrivé, on transporta le corps, blanc comme la neige, dans une salle tendue de noir. Le ministre prononça sur le cercueil un discours touchant. Ensuite, on le plaça sur un char et on le porta en terre. Colas, après avoir congédié les amis qui étaient venus rendre les derniers devoirs au cadavre de Lisbeth, alla se jeter encore une fois sur ce lit vide maintenant et prononça de nouveau le serment de la vengeance. Rentré dans son cabinet, il écrivit un acte par lequel il sommait le gentilhomme de Tronca, en vertu de son droit naturel, de ramener en personne ses chevaux à Colasenbrück sous le délai de 3 jours et le condamnait à les nourrir dans leur écurie jusqu'à ce qu'ils fussent redevenus aussi gras qu'ils étaient lorsqu'il les avait laissés à Trockenburg. Il envoya ce billet, et les 3 jours s'étant écoulés, sans qu'il eût reçu aucun message de Trockenburg, il appela Herz, lui dit ce qu'il avait écrit au seigneur, et lui demanda s'il voulait l'accompagner au château pour enseigner au gentilhomme à s'acquitter de son devoir. Herz le comprit aussitôt, et jetant son bonnet en l'air, il s'écria « Partons, mon maître, partons aujourd'hui même !» Colas, ayant terminé la vente de sa ferme et fait partir ses enfants pour la frontière, appela le reste de ses domestiques qui étaient au nombre de 7, tous d'une fidélité éprouvée. Il les arma et sur le soir, il partit à leur tête pour Trockenburg. Au commencement de la 3e nuit, ils pénétrèrent dans la cour et après avoir mis le feu aux dépendances du château, Herz se précipita dans la tour et tomba à l'improviste sur le châtelain et sur l'intendant qui, à moitié déshabillé, était établi autour d'une table de jeu. Le gentilhomme Wenzel de Tronca, qui était précisément à rire avec ses jeunes amis de la sommation que lui avait envoyé le marchand, n'entendit pas plutôt résonner sa voix qu'effrayé, comme si l'ange de la justice fût descendu du ciel. Il pâlit et, se levant, il s'enfuit en criant à ses amis « Sauvez-vous !» Colas, repoussant tous ceux qui voulaient s'opposer à son passage, entra en demandant le gentilhomme et, voyant que l'on cherchait à lui cacher une porte qui conduisait dans une autre aile du château, il s'y précipita. Après avoir parcouru tout le bâtiment sans trouver le gentilhomme, Colas courut dans la cour. Le feu avait gagné et le château se trouvait entouré d'une épaisse fumée et de flammes ardentes s'élevant jusqu'aux nues. Sternbald, aidé de 3 valets, venait de jeter par la fenêtre les cadavres ensanglantés du châtelain et de l'intendant, aux cris de triomphe de Herz et aux plaintes confuses des femmes et des enfants de ces misérables. Un jeune garçon de Truckenburg, voyant le feu prêt à atteindre les écuries, se hâtait d'y courir pour en faire sortir les chevaux du gentilhomme. Lorsque Colas, se mettant sur son chemin, lui arracha la clé qu'il jeta par-dessus les murs et le força aux acclamations et à la risée de tous ses domestiques de sauver les 2 haridelles dont le couvert était déjà la proie des flammes, le jeune homme, se retirant avec peine des ruines fumantes, présenta les bêtes à Colas, qui, le repoussant avec un violent coup de pied, alla s'asseoir, sans rien dire, à la porte du château, où il attendit le point du jour. Lorsqu'il parut, le château n'offrait plus que des ruines, et personne ne s'y trouvait que Colas et ses 7 domestiques. Le marchand, accablé de tristesse, alla chercher dans les environs quelques renseignements sur le gentilhomme. Il revint plus calme, ayant appris qu'il y avait, non loin de Truckenburg, un couvent de femmes nommé Erlabrunn, sur les bords du Mulde, dont l'abbesse Antonie de Tronca était connue dans tout le pays pour une sainte. Il lui parut très vraisemblable que le gentilhomme s'y était réfugié. Montant à l'appartement du châtelain, la tour n'avait point souffert de l'incendie, il y écrivit un mandat où il sommait tout parent ou ami qui aurait caché le gentilhomme Wenzel de Tronca de le lui livrer sous peine de mort et de pillage. Il répondit aussitôt cette déclaration dans le pays, puis il en remit une copie à l'un de ses domestiques, nommé Waldmann, pour qu'il l'apportât à Dame Antonie. Il prit à son service quelques-uns des hommes de Truckenburg qui avaient à se plaindre de leur maître, les arma comme fantassins, de poignards et d'arbalètes, et les exerça à marcher derrière les cavaliers. Après leur avoir distribué de l'argent, il s'assit sur les ruines du château pour se reposer un instant de ses douloureuses fatigues. Vers midi, Herz vint lui confirmer ce que son cœur lui avait fait pressentir, savoir que le gentilhomme avait trouvé un asile à Erlabrunn chez sa tante, la vieille dame Antonie. Il paraissait qu'il avait fui du château par un escalier secret conduisant jusqu'au bord de l'Elbe. Colas soupira à ce récit. Sa troupe, s'étant mise en marche, arriva avant 3 heures à Erlabrunn, armée de flambeaux pour mettre le feu au couvent. Un sombre orage murmurait dans le lointain. Waldmann, qui vint à la rencontre de son maître, lui ayant dit qu'il avait remis le mandat à l'abbesse, Colas ordonna à ses gens de sonner la cloche du couvent. Alors l'abbesse, portant un crucifix d'argent, descendit la rampe, suivie de toutes ses nonnes, et vint se jeter au pied du cheval du maquignon. Celui-ci demanda durement où était caché le gentilhomme.
« Il est à Wittenberg, honnête Colas, » répondit-elle d'une voix tremblante.
Colas, retombant dans la torture d'une vengeance non accomplie, allait ordonner à sa troupe d'avancer et de mettre le feu lorsque la foudre, tonnant avec violence, vint arrêter sa voix. « N'avez-vous pas reçu mon mandat ? » demanda-t-il à l'abbesse.
« Oui, » répondit la dame, d'une voix presque inintelligible. « À présent même, 3 heures après le départ de mon neveu, aussi vrai que Dieu existe. »
Waldmann répondit au sombre regard de son maître que c'était la pure vérité, les mauvais chemins l'ayant empêché d'arriver plus tôt. Une effroyable averse vint en ce moment éteindre les mèches destructives et Colas sentit en même temps se calmer dans son triste cœur toute colère contre de pauvres femmes. Saluant Dame Antonie, il tourna le dos au couvent en s'écriant « Suivez-moi, mes frères, le gentilhomme est à Wittenberg !» Et donnant de l'éperon, ils furent bientôt à une grande distance. Au point du jour, ils entrèrent dans une auberge sur la grande route, où, vu la fatigue des chevaux, il fallait s'arrêter quelques heures. Colas, réfléchissant qu'il lui serait impossible d'attaquer avec 10 hommes une place comme Wittenberg,
écrivit un second mandat dans lequel, après un court récit de tout ce qui lui était arrivé dans le pays, il invitait tout bon chrétien, sous la promesse d'une paix et d'un riche butin, à prendre parti dans sa guerre contre le gentilhomme de Tronca. Le fanatisme et le mécontentement, autant que l'attrait du gain, lui attirèrent bientôt une bande de misérables que la paix avec la Pologne avait laissés sans ressources, en sorte qu'il se trouvait à la tête de 30 hommes lorsqu'il arriva sur la rive droite de l'Elbe avec l'intention de réduire en cendres la ville de Wittenberg. Il se retira avec sa troupe sous un vieux hangar ruiné dans la solitude d'une sombre forêt et lorsqu'il eut appris par un de ses hommes qu'il avait envoyé déguisé à la ville que son mandat y était déjà connu, il partit avec ses gens pour mettre le feu au faubourg pendant que les habitants de Wittenberg étaient encore livrés au sommeil. Tandis que ses soldats, profitant du trouble que causait l'incendie, se livraient au pillage, il placarda contre la porte d'une église une déclaration contenant que lui, Colas, avait allumé l'incendie, et que si on ne lui livrait aussitôt le gentilhomme, il le propagerait dans toute la ville, jusqu'à ce qu'il n'y restât pas une muraille derrière laquelle il pût se cacher. L'effroi des habitants fut inexprimable. Le feu, qui dans une courte nuit d'été n'avait heureusement brûlé que 19 maisons, dont le nombre desquelles était une église, ne fut pas plutôt éteint que le vieux préfet Otto de Gorgas envoya un bataillon de 50 hommes à la poursuite de l'incendiaire. Mais le chef de ce bataillon, nommé Gerstenberg, prit si mal ses mesures que l'expédition de Colas, loin d'en être arrêtée, en acquit une plus grande gloire. Ce premier, divisant ses forces comme il le pensait pour cerner Colas et le faire prisonnier, fut lui-même cerné et battu, de telle sorte que le soir du jour suivant, il ne restait pas un seul des hommes auxquels la ville avait confié sa défense. Colas mit de nouveau le feu au faubourg, qui cette fois furent réduits en cendres, puis il afficha encore son mandat jusque sur l'hôtel de ville, y ajoutant le récit du sort que venait d'éprouver le capitaine de Gerstenberg. Le préfet, indigné de l'audace de cet homme, se mit lui-même avec plusieurs cavaliers à la tête de 200 hommes, et après avoir donné au gentilhomme une garde qui devait le préserver de la fureur du peuple jusqu'à ce que l'on pût le faire évader, il sortit le jour de Saint-Gervais pour repousser la fureur de l'hydre menaçante qui désolait le pays. Mais le maquignon fut assez prudent pour éviter une rencontre. Il fit semblant de fuir jusqu'à ce qu'il eût attiré le préfet à quelques milles de la ville, faisant courir le bruit qu'il se jetait sur le Brandenburg. Puis se retournant subitement, il revint en toute hâte à Wittenberg et y mit le feu pour la troisième fois. L'incendie, poussé par le vent du nord, se propagea avec une inconcevable rapidité. En moins de 3 heures, 43 maisons, 2 églises, plusieurs couvents, des écoles et la préfecture furent réduits en cendres. Le préfet, apprenant le piège dans lequel il était tombé, retourna au point du jour à marche forcée sur la ville, qu'il trouva dans le plus grand désordre. Le peuple, armé de poutres et de haches, rassemblé devant l'habitation du gentilhomme, demandait, avec des cris de rage, qu'on le fît sortir de la ville. Les bourgmestres, en habit de cérémonie, à la tête de toute la magistrature, s'étaient transportés sur la place et cherchaient vainement à obtenir que l'on attendît tranquillement le retour d'un messager qu'ils avaient envoyé à Dresde pour y demander les ordres de la cour à l'égard du gentilhomme. La populace furieuse, ne tenant nul compte de leur discours, allait suivre le conseil des plus violents, qui était d'assiéger et de démolir la maison qui renfermait le gentilhomme, lorsqu'Otto de Gorgas rentra à la tête de sa troupe. Ce digne homme, dont le seul aspect inspirait toujours au peuple la confiance et le respect, réussit à le calmer en lui montrant 2 des complices de Colas qu'il ramenait chargés de chaînes et en lui faisant espérer de tenir bientôt leur chef entre ses mains. Ensuite, il pénétra dans l'appartement du gentilhomme qu'il trouva tombant d'évanouissement en évanouissement entre les bras de 2 médecins qui le rappelaient à la vie avec des essences et des cordiaux. Sentant bien que ce n'était pas le moment de lui faire des reproches, il se contenta de jeter sur lui un regard de mépris, en lui disant de s'habiller et de le suivre pour sa sûreté dans le palais de justice. Lorsqu'on eut revêtu le gentilhomme d'un pourpoint et d'un casque, en ayant soin de laisser sa poitrine découverte à cause des fréquents étouffements dont il était saisi, il parut dans la rue, appuyé sur le bras du comte de Guerchaud, son beau-frère. Le peuple, contenu avec peine par les gendarmes, l'accabla de 1000 imprécations. Il le nomma le fléau du pays, la malédiction de la ville de Wittenberg et le malheur de la Saxe. Cependant, après un trajet pénible au milieu des décombres de l'incendie, il atteignit sans accident le palais de justice où il fut enfermé dans une tour occupée par une forte garde. Le retour du messager avec la résolution de la cour vint mettre le préfet dans un nouvel embarras. La bourgeoisie de Dresde ayant adressé à celle-ci une pressante supplique, elle ne voulait aucunement recevoir le gentilhomme de crainte d'attirer dans la capitale la guerre et l'incendie. Elle ordonnait au préfet de le laisser où il était, l'avertissant qu'elle allait envoyer contre Colas, pour venger la bonne ville de Wittenberg, une troupe de 500 hommes sous le commandement du prince Frédéric de Meissen. Le préfet vit bien que cette résolution n'était pas de nature à contenter le peuple, car la guerre que le maquignon faisait dans les ténèbres avec la poix, la paille et l'allumette aurait rendu vaine une force plus considérable que celle du prince de Meissen. Il se décida à cacher la résolution de la cour et se contenta de faire publier la croisade du prince contre Colas. Le lendemain, au point du jour, une voiture fermée sortit du palais de justice, accompagnée de 4 cavaliers bien armés qui prirent la route de Leipzig, et le bruit se répandit qu'ils conduisaient le gentilhomme à Plessembourg. Le peuple, satisfait à son égard, se réunit en foule à la troupe du prince de Meissen. Cependant, Colas se trouvait dans la plus étrange situation, à la tête d'une centaine d'hommes, menacés d'un côté par le préfet, de l'autre par le prince. Sa troupe étant bien armée et d'une vaillance éprouvée, il se décida à marcher courageusement au-devant de ce double orage. Le soir du même jour, il attaqua le prince de Meissen dans une rencontre nocturne à Mühlberg, où il eut le chagrin de voir tomber le fidèle Hers, qui combattait à ses côtés. Aigri par cette perte, Colas redoubla de vaillance, et au bout de 3 heures de combat, le prince était hors d'état de rallier sa troupe, soit à cause du désordre qui y régnait, soit à cause de ses blessures. Après cette première action, Colas se retourna sur le préfet qu'il attaqua en plein jour et en rase campagne. La perte fut égale des deux côtés, mais il est probable que le préfet eût été défait s'il n'eût profité de la nuit pour retourner à Wittenberg avec le reste de sa troupe. 5 jours après, Colas était devant Leipzig, mettant le feu à 3 points de la ville. Il se nommait, dans le mandat qu'il répandit en cette occasion, un représentant de l'archange Michel, qui était venu, armé du glaive de la justice, livrer une guerre à feu et à sang à l'injustice et à la fausseté des hommes. Du château de Lutzen, dont il s'était emparé, il appelait le peuple à se joindre à lui pour réformer le monde, et cette feuille était signée avec une sorte d'égarement. Du siège de notre gouvernement provisoire, le château de Lutzen. Le bonheur des habitants voulut qu'une pluie abondante vint déjouer les projets de l'incendiaire et qu'il n'y eût de brûler qu'une boutique voisine du château de Plessembourg. L'effroi et le trouble s'emparèrent de tous les cœurs lorsqu'on apprit à Leipzig que le gentilhomme devait se trouver au château de Plessembourg et que l'on vit s'approcher une bande de 200 cavaliers envoyés à sa recherche. Ce fut en vain que les magistrats firent répandre dans les environs la déclaration que le gentilhomme n'était point à Plessembourg. Le maquignon, dans de semblables feuilles, soutint qu'il s'y trouvait, et que, s'il était vrai qu'il n'y fût pas, il ne s'éloignerait que lorsqu'on lui aurait nommé le lieu de sa retraite. Le prince de Saxe, instruit de la détresse où se trouvait sa ville de Leipzig, déclara qu'il allait marcher en personne contre Colas, à la tête de 2000 hommes. il fit reprocher sévèrement au prophète Otho de Gorgas le perfide mensonge par lequel il avait rejeté sur la Psyche toute la fureur de l'incendiaire. Mais il serait impossible de décrire le trouble de toute la Saxe et principalement de la résidence lorsqu'on y eut connaissance d'une nouvelle affiche où l'on déclarait à Colas que le gentilhomme Wenzel s'était enfui à Dresde chez ses cousins Hinz et Kunz de Tronka.